podcast de Radio Vatican.
L'Indonésie durcit le ton face aux trafiquants de drogue. Dans une interview accordée à un quotidien anglophone du pays et publiée le 21 juillet dernier, le président Joko Widodo appelle les forces de police à tirer systématiquement sur les trafiquants présumés lorsque ceux-ci résisteraient. Abattez-les, soyez impitoyables, exhorte-t-il sans ambages, et de renchérir lors d'une réunion d'hommes politiques. Soyez fermes, surtout avec les trafiquants étrangers qui entrent dans le pays. Une rhétorique qui n'est pas sans rappeler celle de Rodrigo Duterte, le bouillant président philippin, qui a déclaré une guerre sans merci aux trafiquants de drogue de son pays. Les déclarations du président Joko Widodo préoccupent les associations de défense des droits de l'homme. L'Église catholique, d'ordinaire peu encline à faire entendre sa voix dans le débat public, a également fait part de son inquiétude devant la nouvelle dynamique que le gouvernement veut impulser à sa politique sécuritaire. Le père Antoine Sontag est directeur du service national de la mission universelle de l'Église au sein de la Conférence des évêques de France. Il s'est rendu en Indonésie au mois de juillet et a notamment rencontré les membres de la conférence épiscopale.
Le président, pendant sa campagne, Jokowi, avait promis de lutter contre la corruption, lutter contre la drogue, qui est un véritable fléau dans ce pays. Donc, il est en train de le faire. Ça fait déjà 2 ans qu'il est président. Donc, si vous voulez, là, il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est un président qui applique ce qu'il avait promis pendant la campagne. Là où c'est plus inquiétant, c'est le discours récent qu'il a fait. Ça repose sur aucune législation. C'est simplement une sorte de feu vert donné à la police pour tirer assez facilement, alors qu'en principe, la police ne doit tirer que dans des cas exceptionnels, pour arrêter des trafiquants de drogue. Et puis, dans la foulée, le président a laissé entendre que les trafiquants de drogue étaient principalement ou surtout des étrangers. Donc, si vous voulez, il y a là un petit côté populiste dans son discours qui laisse entendre que les malheurs du pays viennent de l'étranger. Alors, effectivement, on n'attendait pas le président tenir des propos populistes comme il les a tenus récemment. Ceci étant, le président avait déjà, en matière de lutte contre la drogue, montré qu'il était prêt à poser des gestes un peu spectaculaires. Il a fait exécuter, c'est-à-dire il a refusé d'accorder sa grâce à 5 ou 7 condamnés qui étaient condamnés à mort, qui sont des trafiquants de drogue. Et comme par hasard, mais c'est évidemment pas par hasard, ces 5 ou ces 7 personnes exécutées étaient des étrangers. Et parmi ces étrangers, il y avait aussi des Australiens qui étaient une manière de montrer, pour le président, de montrer qu'il avait peur de personne, y compris du grand voisin qui est riche, l'Australie. Et c'était un peu déplorable, si vous voulez, le fait de faire exécuter des étrangers en laissant entendre que c'est les étrangers qui sont trafiquants de drogue, alors que, en fait, la majorité des trafiquants de drogue dans ce pays comme ailleurs, ce sont des nationaux, quoi. Voilà.
Alors, les associations de défense des droits de l'homme ont fait part de leur inquiétude, et l'Église aussi, par la voix de ses évêques, s'est exprimée sur le sujet.
Alors, la conférence épiscopale a pris position contre cette incitation que le président a donnée aux forces de l'ordre de tirer sans retenue. Ce qui est nouveau, c'est que la conférence des évêques intervienne publiquement, fasse une déclaration publique et le fasse savoir. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que la conférence des évêques défende la démocratie dans le pays, parce que l'avenir des chrétiens dans le pays est très lié au caractère démocratique de ce pays, pour une raison simple, c'est la démocratie qui protège les minorités. Or, les chrétiens, les catholiques, sont des minoritaires dans ce pays. Minoritaires quantitatifs, parce que les catholiques sont guère plus que 3% et auxquels s'ajoutent peut-être 6% de protestants, mais aussi minoritaires dans un autre sens, c'est que les catholiques se recrutent quasiment tous dans des îles qui sont ethniquement, culturellement, linguistiquement minoritaires. Donc la défense des minorités dans le pays rejoint la défense des catholiques. Et la défense des catholiques passe par la défense des minorités. La défense des minorités n'est possible que dans un État démocratique, si l'Indonésie s'écarte un peu trop de la démocratie imparfaite qu'elle vit actuellement, eh bien ça sera le règne, si vous voulez, des Javanais, d'un point de vue ethnique et culturel, ça sera le règne des musulmans, qui sont 85% de la population. Et cela sans même parler de l'éventuelle prise du pouvoir par des groupes musulmans radicaux. Là, je parle simplement du jeu démocratique normal. Donc, les évêques réagissent, et c'est normal pour que le pays reste dans le chemin de la démocratie, parce que ils sont attachés à cela. À part la conférence des évêques, il y a aussi plusieurs associations confessionnelles catholiques qui ont pris la parole pour rappeler les exigences de la démocratie et d'une police démocratique qui ne doit pas tirer sur les suspects à la légère.
Alors l'Église catholique s'est exprimée sur cette question. C'est donc une nouveauté, vous l'avez dit, puisque l'Église d'ordinaire est très discrète. Alors comment expliquer cette discrétion, ce silence parfois dans les débats publics ?
C'est une nouveauté parce que jusqu'ici, pour des raisons qui doivent s'expliquer historiquement, disons voir, les évêques catholiques d'Indonésie avaient plutôt ce qu'on appellerait un profil bas, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de grandes déclarations ronflantes et ils ne se posaient pas en opposition au gouvernement, quel qu'il soit, depuis la réforme de 1998, quand ils ont renversé Suharto. C'est certainement lié au fait que, pour des chrétiens, de s'agiter en public, c'est plutôt une marque de fabrique des évangéliques. L'Église catholique, et en particulier les évêques, ne veulent pas être assimilés aux évangéliques, et donc ils ont plutôt un comportement qu'on pourrait appeler discret. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'en Indonésie, c'est très clair que catholiques et protestants, ce sont deux religions différentes, comme ils disent eux-mêmes, mais c'est clair que pour tout le monde, pour l'État, mais aussi pour l'opinion publique, les catholiques, c'est les catholiques, et les protestants, c'est autre chose. Mais les protestants eux-mêmes sont un peu débordés par leur haine la plus militante, la plus nombreuse d'ailleurs, que sont les évangéliques. Ça, c'est vrai en Indonésie comme ailleurs. Et ces évangéliques ont des comportements qui sont parfois taxés de radicaux, d'extrémistes ou de prosélytes, ce qui évidemment n'est guère apprécié dans l'opinion publique et par les musulmans en particulier. Et donc l'Église catholique n'a aucune envie d'être associée à cette agitation des évangéliques.
Est-ce que vous pensez donc à terme que cette parole de l'Église, cette parole publique aura une certaine influence, un certain poids sur la politique gouvernementale ?
Je pense plutôt que l'influence de l'Église, c'est pas à l'occasion d'une affaire particulière ou d'une question très politique, le Parlement, le gouvernement, le président. Je pense que l'influence de l'Église, c'est plutôt une influence en amont, métapolitique pour utiliser des grands mots. C'est en amont à cause de l'effort d'éducation que fait l'Église par ses écoles, par le fait qu'elle forme ses chrétiens, ses catholiques, ses étudiants. Et elle les forme, oui, à l'ouverture, à la démocratie, au respect des droits de l'homme. Et donc là, je crois qu'il y a une influence de l'Église, mais c'est une influence en amont et une influence diffuse qui ne s'analyse pas en termes de politique sur tel projet de loi. L'Église catholique pèse comme un lobby, vous voyez.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.